Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, à suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial Jeune Virtuose et Bertrand Chameroy pour son écran de veille spécial Miss France. Notre invité, c'est l'interprète de Caprice et Fini, Hervé Villard. Faut-il le présenter ? Il raconte sa vie ou une partie dans un nouvel ouvrage, Du lierre dans les arbres. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, une sélection de films à voir chez soi avant l'ouverture annoncée des cinémas, ce sera avec Mathieu Charrier. Et puis une découverte musicale, ce sera avec Angèle Châtelier. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver. Pareil pour Bertrand Chameroy, bonjour.
Bonjour Philippe.
C'est l'heure de votre écran de veille Bertrand, et pour ce premier jour de décembre, vous nous parlez de paillettes.
Oui, hier j'avais le choix entre l'audition de Gérald Darmanin par les députés ou un autre programme, et j'ai choisi l'autre programme. Mais pour ceux qui auraient préféré l'audition du ministre de l'Intérieur, je vous offre un résumé. Voilà. Paillettes, donc, comme le veut la tradition, à 2 semaines de la 100e édition du concours Miss France, Jean-Pierre Pernaut recevait hier les candidates dans son 13h avec un changement cette année.
Malheureusement, pour cause de coronavirus, elles ne sont pas avec moi sur ce plateau comme tous les ans depuis si longtemps.
Ah, vous entendez les trémolos dans la voix de Jean-Pierre, on dirait un enfant sans cadeau à Noël. 2020 sans pitié jusqu'au bout, non contente d'avoir plombé l'économie et le moral. Voilà qu'elle prive JPP de son moment préféré de l'année, sa respiration après l'élection du plus beau marché de France et SOS Village. Et ben non, pas cette année, salaud de Covid. Les Miss étaient en visu aux conférences et comme si ça ne suffisait pas, double peine pour Jean-Pierre.
C'est la première fois qu'on les voit ensemble, autour de Sylvie Tellier bien sûr. Oh, elles sont masquées, quel dommage Sylvie.
Oh, il est déçu mon Jean-Pierre, elles étaient masquées, sauf leur chef Sylvie Tellier, tout sourire au premier plan, avec derrière elle 29 Miss dans la même tenue, lit de vin, en randonnion, statique et masquée, une image à mi-chemin entre Mars Attacks et les Stormtroopers de Dark Vador, nous venons en paix. Et les Miss masquées, ah les Miss masquées ça lui plaît pas Jean-Pierre, ou que non, il a fait une fixette dessus, une minute plus tard.
Rassurez-moi Sylvie, le 19, elles seront démasquées. Bon préparatif à toutes ces jeunes femmes qu'on espère voir démasquer très vite.
Je veux voir les visages des filles. Oui Jean-Pierre, tout doux, on a compris. Il a passé l'interview à rabâcher qu'il aurait aimé les voir, et vu la récurrence des allusions, c'était carrément des fusées de détresse qu'il lançait.
Grosse surprise aussi en début d'émission, puisque ce sont près d'une trentaine de Miss France qui vont ouvrir cette belle cérémonie.
Ah, oh, il a de la chance Jean-Pierre Foucault, c'est encore lui.
Contrairement à moi qui n'ai pas de chance, moi je me fade un vieux Skype, alors que Foucault lui, il va les voir en vrai les Miss, voir des vrais bouts de peau et sentir leur parfum, chienne de vie. Était également présente Miss France 2020, Clémence Bottineau, à qui Jean-Pierre Pernaut a posé des questions auxquelles il est difficile de répondre non.
Ça a quand même été une belle année pour vous, Clémence.
Qu'est-ce que tu veux répondre à part oui? Évidemment, c'était une belle année. Elle a eu sa Peugeot, son abonnement TV Mag, des produits Corinne de Farm, et grâce au Covid, elle a été dispensée des regards lubriques des élus dans les forêts expo. Donc oui, c'était plutôt une belle année. Autre question à laquelle on ne peut pas répondre non.
Qu'est-ce que vous retenez de cette année? Est-ce qu'il y a une chose à retenir ou pas, Clémence?
Vous la voyez répondre non, rien du tout. Vraiment, c'est un calvaire. Il y a Sylvie Tellier qui la surveille juste à côté. On va mettre ça sur le compte de l'émotion. Il s'en est parmi de cette vision, Jean-Pierre. Les Miss, il voulait vraiment les voir en vrai. Résultat, l'interview s'est conclue comme elle a débuté.
Sylvie Tellier, on aura droit à tout cette année, les maillots de bain, les robes de soirée.
Mais donnez-lui du bromure et un verre d'eau, bon sang, Jean-Pierre.
Merci Bertrand Chameroy. Jean-Pierre Pernaut qui sera notre invité dans quelques jours. Je me tourne vers vous, le 14, je me tourne vers vous Eva Rock.
Oui.
On va parler d'avenir, on va parler de notre soirée sur les écrans. À quoi ressemble votre zapping? Quel en est le thème?
Alors c'est le mot prodige, des prodiges plutôt, grâce à deux émissions. Il va falloir faire un choix parce que les deux émissions sont diffusées au même moment sur France 2 à partir de 21h05, saison 7 de Prodige, le programme qui met à l'honneur donc des enfants prodigieux en termes de musique, de chant et de danse. 15 virtuoses âgées de 9 à 16 ans face au public, face au jury composé de Marie-Claude Pietragala, Gauthier Capuçon et Julie Fuchs, l'immense chanteuse lyrique nouvelle venue dans l'émission. Autant vous dire que c'est plutôt impressionnant pour ces enfants. Encore que, Raphaël, du haut de ses 13 ans, vous emmène en coulisses avant d'interpréter son petit morceau au violon.
Voilà, je rentre sur scène, je regarde le jury, le public, impressionnant. Je respire. Allez, c'est mon moment.
Un petit bonhomme, un coupe de cheveux à la mode, hyper à l'aise sur scène, un sourire éclatant, la musique classique chevillée au corps, même s'il avoue qu'il a un groupe de rock et qu'il pourrait très bien jouer de la batterie. La plus jeune candidate, elle s'appelle Élise, elle a 9 ans et elle chante une reprise de Leonard Cohen. Oh. Elle a 9 ans, la petite Pichoune, hyper active. Elle est drôle en coulisses et elle va finir en larmes sur cette scène. Un trop plein de trac, trop plein d'émotions, mais un très beau moment. J'aime beaucoup cette émission pour la bienveillance qu'elle dégage, pour les sourires de ces virtuoses qui sont là pour jouer plus que pour gagner. Et puis l'arrivée de Julie Fuchs rajoute un rayon de soleil au programme. Et puis à la même heure, première demi-finale de La France a un incroyable talent sur M6. J'ai regardé sans trop savoir à quoi m'attendre. Et je vais être claire, Philippe, c'est exceptionnel. La qualité des numéros est exceptionnelle. Bertrand, ne riez pas, je vous assure. Alors, c'est difficile de vous en parler parce qu'il s'agit avant tout de numéros visuels. Hein. Un groupe de danseurs à l'énergie communicative, des basketteurs acrobates, des magiciens surprenants, un musicien capable de métaphores.
C'est ridicule. Elle en rit avant même de l'avoir dit. Allez-y,
parce que c'est ridicule quand je le dis, mais c'est formidable. Il a métamorphosé son vélo en 10 instruments de musique différents.
Ouais, enfin,
je suis retombée en enfance. J'ai eu 10 ans pendant 2 heures parce que ses prestations, elles sont prodigieuses, elles sont étonnantes. Elles sont poétiques, sous le regard d'un jury là encore bienveillant, rejoint par Ahmed Silla qui a bien du mal à cacher son émotion. Et puis un coup de cœur de la soirée pour Lisa, elle a 16 ans et une faculté à revisiter des tubes des années 80.
Dans mon verre, je regarde la mer qui se balance. Je veux un disque de funky music, faut que ça danse. J'aime cette fille sur talons aiguilles qui se déhanche.
Soirée prodigieuse avec Prodige sur France 2 à 21h05 et à la même heure, La France a un incroyable talent sur M6 avec Lisa que j'adore.
Voilà. Merci beaucoup Eva Rock, vive les vélos qui font plein de musique. À demain Bertrand Chameroy.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Hervé Villard.
Bonjour.
Je vais citer juste un titre de chanson, Caprice est fini, 4,10 millions vendus pendant l'été 65, 12 millions en tout, chansons écrites par vous, également des tubes imparables comme Nous ou Reviens, vous en parlez, et de beaucoup de choses encore dans ce livre, du lierre dans les arbres, c'est chez Fayard, un roman autobiographique. Vous en aviez déjà écrit un qui racontait votre enfance, les années 60, là on est plutôt dans les années 70-2000, les prix sont encore en francs, et ça commence très fort. Vous qui n'aviez jamais caché votre homosexualité, vous révélez que vous attendez un enfant. Et un ami vous dit « Quelle horreur, ne me dis pas que tu t'es mis aux femmes. Ça se passe au Mexique et finalement, vous allez perdre la maman et le bébé dans des circonstances tragiques. »
Dans un accident de voiture, bêtement, dans un ravin, la fille dans un ravin.
Ouais.
Mais vous savez, c'est le destin, c'est... voilà. Moi, j'étais au Mexique, j'étais ici, j'étais devenu un peu dans les choux. J'étais dans les années 70, c'était l'époque des Mack Brandt et tout ça.
Ouais.
Des Belges qui chantaient des chansons un peu moroses, comme ça. Et donc, moi, j'avais moins de succès. Ouais. Et donc, là-bas, j'ai découvert un pays où je faisais les mêmes Drucker, les mêmes Guy Lux. J'étais devenu un chanteur pratiquement national sur l'Amérique latine. Si
vous étiez une immense vedette.
Et donc j'ai voulu essayer de m'installer là-bas. Ce que j'avais dans mes projets, c'était de fonder une famille, moi qui n'en avais pas.
Et alors, vous revenez en France, je saute évidemment des pages et des chapitres. Vous parlez de tout ça, de tous ces traumatismes à votre psy, qui vous pose la question qui fait mouche. Pourquoi, après votre retour de Mexico, n'avez-vous pas cherché à fonder une autre famille?
Oui, c'est ça qui me provoque.
Ouais, mais c'est une bonne question.
Non, mais il ne le savait pas. Il ne connaissait pas le drame du Mexique. Ouais. C'est ça qui est...
Et alors moi, je vous pose la question à laquelle vous ne répondez pas dans le livre.
Non. Ça, quand c'est raté une fois, c'est raté. Vous voyez, ça, c'est comme un tour de chant. Vous voyez, la vie, ça se passe très très vite. Ça va très vite. Et c'est comme l'échec de ma chère mère que j'ai retrouvée à 20 ans. Du coup, j'ai écrit ça dans le deuxième livre, parce que j'ai fait 3 livres.
Ouais, votre maman, qui vous avait abandonné à l'âge de 6 ans...
Elle ne m'a jamais abandonné. C'est là,
elle vous a placé.
Non, on l'a retiré, on m'a retiré, voilà.
Et vous étiez en orphelinat.
Voilà.
Autre révélation dans ce livre, ça, je savais que vous veniez de l'assistance publique d'orphelinat, à l'âge de 15 ans, 62, vous avez été adopté par un tuteur, ce que j'ignorais, c'est que c'était Daniel Cordier, grand résistant, secrétaire de Jean Moulin qui vient de nous quitter à l'âge de 100 ans, c'était le 20 novembre. Est-ce que vous étiez à l'hommage du président Macron jeudi aux Invalides?
J'étais dans la cour des Invalides, oui. Assez discret d'ailleurs, mais j'y étais.
Vous écrivez page 18 que vous n'êtes pas du même monde avec Daniel Cordier. Trop de lèche-bottes intolérants et lénifiants au sein des réceptions qu'il donne, trop de services service à table. Je ne l'imaginais pas comme ça.
Mais il avait des relations, Daniel. Il avait aussi une galerie de peinture. C'était pas un marchand d'art, c'était un passeur d'art. Ouais. Il n'était pas été seulement résistant, il a aussi été au service.
Non, mais on l'imagine pas en train de faire des dîners parisiens avec trop de personnel, trop de gens.
Mais vous savez, beaucoup d'hommes politiques que j'ai croisés chez lui lui demandaient des conseils. Il aurait pu être 20 fois ministre, il ne l'a pas été non plus.
On vous a parfois prêté une relation avec lui et vous écrivez ceci. Me reproche-t-il, Daniel Cordier, de n'avoir rien conservé de l'adolescence ou l'absence de sexe entre nous? Je lui avais balancé que je n'aimais pas les vieux, je crois même que c'est pour ça que je l'intéressais tant.
Oui, mais c'est exact. C'est parce que je lui ai dit la vérité, avec beaucoup d'insolence, qu'il a décidé de s'intéresser à moi.
Ouais. Daniel Cordier, dont on salue évidemment la mémoire tout ici. Tellement, tellement de questions à vous poser encore, Hervé Villard. Hélène Manarino va arriver pour votre portrait inattendu. C'est déjà tellement inattendu que dans ce livre que j'attends Hélène avec gourmandise. À tout de suite.
Reviens, on va vivre la main dans la main.
Hervé Villard, une personne qui est très heureuse de vous rencontrer.
Oui.
Elle est en face de vous, elle s'appelle Hélène Manarino, je la salue. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe.
Bonjour,
Bordel.
Elle est jolie et jeune en plus.
Écoutez, encore. Ah bon encore. Bonjour Hervé Villard.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, comment il va, le Didou, le Hervé? Hervé Wisslar, surnom de vos musiciens, le Furet aussi, parfois, puisque vos amis tombent souvent sur vous totalement par hasard quand ils sont à l'étranger. Et oui, Hervé Villard, vous êtes partout, mais surtout dans le moment présent, dans l'époque, et avec une jeunesse qui ne vous a jamais quitté. Vous êtes une véritable star, par exemple, pour les lycéens d'Henri IV. Vous êtes presque la mascotte.
Ah oui ?
Ils sont mes voisins.
Voilà. Donc vous passez les voir souvent.
Oui, c'est eux qui passent me voir.
Ah, ils viennent chez vous ?
Oui, bien sûr.
Ah, bien sûr, bah oui.
Votre moyen de vous informer, Facebook. Bon, même quand vous postez quelque chose, vous ne savez pas que vous pouvez écrire un petit statut avec la photo. Donc vous postez et votre légende, vous la mettez dans les commentaires en dessous. Vous n'avez pas encore compris. Mais c'est pas grave, pas de moquerie. Et comme les jeunes, vous perdez souvent votre téléphone dans le métro. Alors, observateur de tout ce qu'il se passe dans la société, les rapports humains et parfois la méchanceté vous intrigue, surtout à la télévision. Hervé Villard, vous êtes devenu totalement accro à ça.
Quatre mariages pour une lune de miel.
Quatre mariages pour une lune de miel.
Pendant le confinement, c'était formidable, c'était très distrayant. Et on s'aperçoit vraiment à quel point les femmes sont méchantes entre elles.
Exactement, c'est ça. Et ça
c'est
vous amuse.
Dit.
Et ça vous amuse. Les séries, pas trop. En revanche, vous avez pleuré devant le film « Call Me By Your Name
».
Hervé Villard, la vie, vous en profitez. Mangez des bonnes choses, boire du bon vin, organiser des déjeuners chez vous avec votre brandade de morue, devenue mythique. On entend l'invitation avec Philippe Vandal.
Mais bien sûr,
je vois d'où ça vient.
La cuisine vous anime, la gourmandise. Vous occupez des autres aussi. Vous aimez, par exemple, marcher avec votre voisine, l'actrice Françoise Arnoux. Refaire un peu le monde avec elle.
Très grande actrice.
Très grande actrice.
Et très sympa femme.
Hervé Villard, vous êtes aussi rempli de souvenirs et ça se voit aussi dans les petits objets que vous gardez chez vous. La grande vie, jamais sans votre sœur de cœur, Nicoletta.
Ouais.
L'insouciance, mais avec une souffrance qui ne vous a jamais fait peur. Alors, c'était mieux avant, mais quand même, vos soirées que vous organisiez, vous invitiez vos amis qui avaient le devoir de s'occuper de la boisson. Vous viviez dans l'appartement d'un ami qui faisait le tour du monde. D'ailleurs, il collectionnait les savonnettes, mais vous les aviez toutes utilisées. Donc il n'avait plus de collection.
On avait piqué tout ça dans les hôtels, enfin, c'est très bien.
C'est ça. Parfois, vous n'aviez pas de quoi manger. Vous alliez chercher une bouteille de lait et vous piquiez souvent un petit camembert.
Oh.
Jusqu'au jour où le vendeur vous a dit « Tiens, si je vous offrais moi un petit camembert ?» Hervé Villard, vous étiez heureux, oui, avec des pâtes, des œufs, un café. Tant qu'il y avait vos amis, c'était le principal, la vie de bohème, comme on dit. Pourtant, vous n'avez jamais vécu avec quelqu'un et quand on vous demande pourquoi, vous répondez « je ne sais pas faire ». Alors,
j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je dois être spécial. Puis le dessin, on en a voulu autrement. Voilà. On fait un métier dur, vous savez.
Mais Hervé Villard, ne nous arrêtons pas là pour vos souvenirs. Vous aimiez aussi imiter Dalida pendant que Nicoletta faisait Mireille Mathieu.
Non. Oui, ah bah oui.
C'est comment Dalida ?
Ah, Dalida, c'était tout à fait normal. Elle disait, mais pourquoi tu chantes cette chanson-là ? Ça ne te va pas du tout.
Ouais. Et en ce
c'est une femme
moment,
merveilleuse, une femme merveilleuse.
Et en ce moment, quand vous êtes heureux, après un dîner, quand vous voulez célébrer la vie, vous imitez Juliette Gréco qui chante Olga.
Ah, j'adore. C'est vrai que j'étais une artiste. C'est vrai.
Vous savez tout.
Je sais tout, mais je ne sais pas comment vous imitez Juliette Gréco.
Ça
donc
fait
je vais
quoi,
vous
Gréco
le demander
Gréco
maintenant.
Je n'imite pas Juliette Gréco, je me contentais d'aller la voir, je l'ai vue 100 fois. Et j'admirais cette femme, et si je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse, je ne comprends pas notre service de la culture française qui n'a pas fait un grand hommage à Madame Gréco, qui a servi quand même la langue française et la poésie pendant plus d'un siècle, et qui a servi aussi la France à travers le monde.
Alors, vous ne l'imitez pas, mais vous allez y avoir souvent, mais aussi une vie de voyage, Hervé Villard. La Thaïlande, par exemple, vous avez rapporté de la soie pour le costume d'un de vos spectacles. Vous aimez Bruxelles aussi, mais avant, il y avait l'Amérique du Sud avec une de vos amies, Claudie, qui soignait les gens avec des gélules de peau de serpent. Cela vous a toujours intrigué. Hervé Villard, comme vous dites parfois, à mon époque, mais pourtant, vous êtes toujours aussi présent dans la nôtre. Ne plus vous poser de questions, oui, et comprendre également que Capri ne sera jamais fini.
Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon
c'était
premier...
le kiff d'Hélène de passer
mais oui, je suis super contente.
C'est comme ça que vous terminez ?
Ouais.
Mais je peux finir par nous, si vous voulez.
Oh, bah oui, ça,
nous,
c'est 15 ans après. Hein,
on l'a, nous.
Voilà.
C'était comme un récit autant.
Les paroles sont de vous.
Elles sont de Claude Lemel et de moi.
D'accord, donc ça tombe les droits d'auteur encore.
Ça va, ça se maintient. Pour moi cette année on va en faire un peu moins quand même.
Mais ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment plaisir, merci beaucoup Hélène.
Merci Hélène,
elle est tellement heureuse.
Vous êtes bien renseignée. Vous avez dû passer des coups de fil.
Elle est toujours, toujours bien renseignée et elle
j'attends la brandade de morue ouais.
Mais j'allais voir, je sais la faire à la portugaise.
C'est vrai, elle n'a pas son portable, elle, contrairement à vous. Hervé Villard, vous restez avec nous, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Hervé Villard, du Lierre dans les arbres, c'est le troisième volet de sa trilogie. C'est en gros votre autobiographie, vous racontez votre vie, vos vies, tout ce qui se passe. Il y a des anecdotes absolument incroyables.
Je voudrais quand même signaler que c'est un peu de littérature. C'est pas un livre que j'ai écrit avec des cassettes, comme ça. Et
on est bien d'accord, c'est un vrai livre. C'est vraiment, il y a du style. Ouais. On vient d'abandonner Gainsbourg au bar du Don Camillo, ivre mort. Le jean me fracasse, j'ai mal au crâne. D'une main, je rattrape le César de Philippe Léotard avant qu'il ne s'échoue dans la Seine. Claude Brasseur tente de porter Nougaro sur son dos pour arriver jusqu'à chez moi. Aveu de Léotard, accroupi devant ma porte, il tient une canette vide, il en veut une autre. C'était complètement dingue la vie chez vous.
C'était surtout que je ne me couchais jamais avant 10h du matin.
Ouais.
Vous savez, quand on absorbe beaucoup de force comme ça, beaucoup de choses...
Ah, vous allez dire, parce que vous racontez, vous avez absorbé plein de trucs autres que des forces.
Oui, j'absorbais beaucoup, on chantait beaucoup, énormément, on travaillait beaucoup, donc on avait besoin. C'est un besoin chez les artistes, j'allais dire chez les chanteurs, comme ça, d'évacuer ce que l'on a reçu. Donc évidemment... J'allais voir les pochetrons, bien que je ne buvais pas, moi.
Et puis, il y a des fêtes absolument dingues chez vous. Une autre fête que vous racontez, le lendemain, vous devez aller sur un plateau de Jacques Martin. Ça fourmille, ça s'agite dans l'appartement. Des groupes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres s'emparent des lieux. Les fanatiques du Colt s'y sont amassés une quinzaine ce soir-là. Flics et truands, ils reviennent d'une séance de tir dans les grottes de Meudon. On s'y entraîne ensemble pour mieux se tirer dessus ensuite. Vous aviez chez vous les flics et les truands dans votre appart.
Je leur disais, messieurs, posez les calibres à l'entrée. Et ils rentraient s'ils avaient posé les calibres, oui. Oui, parce que les truands et les policiers aussi aiment ont une admiration particulière. Peut-être pas pour les stars, mais pour les chanteurs.
Ouais.
Votre ami parlait tout à l'heure de la chanson de l'amour. Les hommes, les personnages que nous sommes, les fascinent souvent. Oui. Et donc, ils s'entouraient naturellement beaucoup de Johnny et beaucoup d'artistes.
Non, et moi, ce qui me fascine le plus dans votre récit, c'est que le truand se dit pas, tiens, il y a un policier, il va m'arrêter.
Non, ils étaient de connivence, ils le sont toujours. Enfin, voyons, à part faire le monde.
Ah ben, moi, je l'ignorais. J'ai toujours cru que c'était dans les films, mais que c'était pas en vrai.
Garçon, vous êtes un petit garçon.
Le
sage et celui qui s'étonne de tout, comme disait Gide. Angèle Châtelier.
Bonjour Philippe.
Je sais pas si vous êtes sage, en tout cas on va faire une découverte musicale grâce à vous aujourd'hui.
Oui, à une découverte planante, soyez prévenus. Anna Benavs a 24 ans, journaliste en formation le jour, faiseuse de merveilles musicales la nuit depuis son ordinateur. En 2019, sous son nom de scène Silly Boy Blue, elle gagne le tremplin pour artiste émergent du festival du printemps de Bourges, Les Inouïs. Ce nom, Silly Boy Blue, elle le tient d'une chanson de David Bowie parmi ses influences. Comme lui, sa musique est d'un romantisme sombre, orageux, souvent tragique, on l'entend. Des dialogues autour d'un sujet malheureusement universel, celui de la rupture.
C'est le dada, je dis pour la régulière, voilà. C'est le dada d'Angèle Châtelier, la rupture.
Alors, en témoigne,
son alpha et son oméga.
En témoigne son dernier single, Hi, It's Me Again. Une chanson que Silly Boy Blue a écrit plutôt que d'envoyer un texto nocturne à son ex. SMS qu'on regrette souvent. Et parce que les artistes ont cette faculté presque mystique de faire de leur malheur des joyeusetés musicales, Silly Boy Blue dévoile aujourd'hui un nouveau projet appelé It's Over Cover.
It's Over Cover, j'essaie de traduire, ça veut dire en gros des chansons sur le fait que ce soit fini.
Exactement, son projet s'est dévoilé tous les mois des duos avec des artistes de la nouvelle scène française où ensemble, ils reprennent leurs plus belles chansons de rupture. Un sujet extrêmement présent dans la musique de Silly Boy Blue.
Dans toutes mes ruptures, c'est grâce aux chansons que j'ai réussi à passer à autre chose, que ce soit les chansons que j'écoute, parce que ça fait du bien. Et puis parfois, ça fait aussi du mal, mais dans le bon sens du terme, c'est dans le sens où ça nous fait extérioriser et ressentir des choses qui nous permettent de passer à autre chose. Et puis moi, dans la manière d'écrire, ben c'est ça, c'est comme ça que je passe à autre chose aussi. C'est comme ça que je dis les choses que j'ai pas eu le temps de dire, que j'ai pas pu dire, que j'ai pas eu le courage de dire aussi. Et c'est souvent comme ça que j'appréhende, moi, mes ruptures. Donc c'est vrai que ça prenait vraiment son sens de tourner tout un projet autour de cette thématique-là, parce que c'est évidemment une thématique qui me parle beaucoup.
Voilà, vous savez donc quoi faire si vous êtes triste à cause de quelqu'un en ce moment. Écrivez, couchez sur papier à musique vos questions et votre amertume.
Voilà, Angèle, ici, on sait que vous faites toujours ça.
Non, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas moi que Silly Boy Blue a invité pour ce nouveau projet. It's Over Cover, c'est d'abord la chanteuse Pyjama, découverte grâce à la Nouvelle Star en 2014. Toutes les deux ont fait une reprise de la chanson Il est mort le soleil de Nicoletta.
Et mon âme s'habille de gris. Yeah. On dormait sur le sable chaud. Hier pour nous il faisait beau. Il faisait beau même en hiver. C'était hier.
Silly Boy Blue sortira son premier album en 2021 et dévoilera donc toutes les semaines une chanson de rupture avec un artiste de la nouvelle scène française.
En espérant qu'elle ne se fasse pas larguer par sa maison de disques. Merci beaucoup, Angèle. Hervé Villard, réaction, ça vous a plu ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que c'est du son, c'est pas de la chanson, ça.
Ouais.
C'est pas de la chanson. Il n'y a pas d'harmonie. C'est du son, on fout tout dans la boîte, on met tout dans la machine et on l'envoie. Et même si on chante faux, on réajuste. On vient d'entendre Nicoletta, je suis désolé, mais il y a une musique, il y a une mélodie, il y a quelque chose. Là, c'est des sons qu'on a piqués chez Bowie, chez Hendrix, chez ailleurs.
Ouais, mais il faut y arriver. La musique électronique, c'est de la musique,
non,
même si elle ne vous touche pas.
Non, c'est des machines qui parlent. Ça ne ce n'est pas des chanteurs. Ouais. Ça. Je veux dire, l'harmonie est importante dans la musique. Vous avez d'autres chanteurs aujourd'hui qui écrivent des chansons magnifiques. Hein. Ouais. Mais je veux dire, ce que je viens d'entendre, c'est de la daube, ce qu'on appelle de la daube.
Alors c'est quoi ? Vous allez vraiment être content parce qu'on va la réentendre.
On va l'écouter rien que pour vous. Voilà. On va écouter Goodbye de Silly Boy Blue
sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Hervé Villard, du Lierre dans les arbres, je ne sais pas si ça pourrait faire un film. Et puis surtout, qui pour jouer le rôle d'Hervé Villard ? Mathieu Charrier, bonjour.
Bonjour, pour jouer le rôle d'Hervé Villard ?
Prenez une femme.
Vous venez avec des conseils DVD et VOD avant la réouverture des salles, faut-il le dire, ça sera dans 15 jours.
Oui, on attend.
Et vous commencez avec le nouveau film de David Fincher, il s'appelle Mank, M-A-N-K, je ne prononce pas très bien, sur Netflix.
Ouais, c'est un diminutif, je vais vous expliquer. David Fincher, à qui l'on doit notamment Fight Club, Seven, Gone Girl, et qui signe donc son premier film pour la plateforme. Alors Mank, c'est en fait l'histoire de l'écriture du film Citizen Kane, vous savez, d'Orson Welles, le classique des classiques, considéré peut-être comme le plus grand film de l'histoire du cinéma.
À mon avis, oui.
Voilà. Pareil. C'est l'histoire, donc vous allez adorer ce film. Mais là, c'est l'histoire de l'écriture donc, de Citizen Kane à travers son scénariste, Herman J. Mankiewicz. Donc Mank, c'est le diminutif, joué par Gary Oldman, le formidable Gary Oldman. Donc Mank, de son surnom, qui avait déjà collaboré avec divers studios américains pour écrire notamment les Marx Brothers ou le Magicien d'Oz, mais qui, au moment où Orson Welles lui propose une collaboration, n'est pas au mieux de sa forme. Il claque tout son argent au jeu, il est alcoolique, il sort d'un accident de voiture qui lui vaut un plâtre de devoir rester au lit toute la journée, donc c'est pas la grande forme. Mais il accepte la proposition d'Orson Welles pour l'argent, clairement, il le dit. Et il va donc écrire ce scénario alité, aidé par une secrétaire qui prend des petites notes pour lui, en s'inspirant en fait de l'histoire d'un magnat de la presse qui est un amant de l'une de ses amies. Sauf que Mank, en écrivant ce scénario, et c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on découvre à l'écran, eh bien, il va se remémorer tous ses souvenirs à Hollywood dans les années 30. Je vous laisse écouter l'ambiance.
Mank, c'est Orson Welles.
Je me doute que c'est toi.
Il est temps qu'on parle.
Prêt à partir chasser la grande baleine blanche ?
Tel le capitaine Akal, racontez ce que vous savez.
Je crois savoir que tu chasses un dangereux gibier.
Là, c'est différent. Ce qu'on a est mémorable.
Ouais, vous êtes dans l'ambiance là, avec cette bande-son, ce crépitement des dialogues, c'est en noir et blanc. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les années 30, Hollywood est alors en pleine mutation, puisque l'industrie doit se réinventer, parce qu'elle arrivait du cinéma parlant. Donc, c'est la force et la limite du film. C'est-à-dire que si vous êtes cinéphile, franchement, c'est jouissif, parce que vous retrouvez plein de personnages ayant existé, qui ont inventé les studios américains tels qu'on les connaît encore aujourd'hui, finalement. En revanche, si le cinéma n'est pas votre passion, c'est vrai que parfois vous pouvez être un peu perdu au milieu de tous ces personnages parce que, comme d'habitude, David Fincher, il va vite, très vite, il ne s'embarrasse pas dans les détails. Reste que c'est un film de 2h15 que moi je trouve assez virtuose. Donc allez-y, Mank, vous trouvez ça sur Netflix.
Autre sortie événement cette semaine, c'est Mulan sur Disney+.
Et oui, Mulan, vous savez, qui devait sortir en salle au moment du premier confinement et qui a été le premier blockbuster à être parachuté directement sur une plateforme. Alors c'est une revisite du dessin animé d'origine, comme Disney a pris l'habitude de le faire avec ses classiques. Je vous refais l'histoire, au cas où, l'empereur de Chine ordonne la mobilisation générale. Chaque famille doit envoyer l'un de ses hommes intégrer l'armée impériale. Car des envahisseurs venus du Nord menacent le pays, sauf que dans la famille de Mulan, il ne reste comme homme que le papa, qui a été un vénérable guerrier, mais qui est vieux, rongé par la maladie et plus en état de combattre. Donc Mulan, elle comprend que s'il part, eh bien, elle ne reviendra jamais. Elle se coupe les cheveux, s'habille comme un homme et prend sa place, sauf que Mulan va devenir un héros national, une héroïne, mais un héros puisque tout le monde pense que c'est un homme, avant que l'on découvre effectivement que c'est une femme et qu'elle prouve au passage que les femmes sont aussi fortes que les hommes extraits.
Je vous apporterai gloire et honneur. Sérénité, élégance et discipline. Ce sont les qualités que nous reconnaissons en Mulan. Il est de mon devoir de combattre.
Alors évidemment, c'est un film qui reste plus que jamais d'actualité, tourné dans les magnifiques paysages chinois, calibré pour être un succès mondial, sans doute un petit peu trop calibré d'ailleurs, mais si vous aimiez le dessin animé, c'est un plaisir de découvrir cette version en image réelle, en famille, pendant ces fêtes, Mulan sur Disney+.
Donc avec de vrais comédiens.
Avec
puis
de vrais
vous y êtes terminé avec Uncle Frank, c'est ça, et c'est sur Prime Video.
Oui, qui était un film présenté lors du dernier festival de Deauville de cinéma américain, et qui était reparti avec le prix du public. Alors c'est l'histoire d'un professeur de littérature new-yorkais qui, dans l'Amérique des années 70, doit retourner dans sa famille au fin fond des États-Unis parce que son père vient de décéder. Il part avec sa jeune nièce et un monsieur dont on va comprendre au fil des heures qui passent que c'est en fait son amant depuis des décennies. Il vit avec lui depuis une décennie. Et donc c'est un film sur l'homosexualité dans les années 70 aux États-Unis, sur l'acceptation. C'est un très très beau film, lumineux, Dommage lui aussi, on l'avait vu sur grand écran à Deauville, dommage qu'il ne sorte pas en salle, mais vous pouvez vous rattraper sur Prime Video, Uncle Frank.
Décidément, l'homosexualité est très à la mode.
Très à la mode, et c'est surtout une source d'inspiration inépuisable.
Vous êtes cinéphile, Hervé Villard, vous avez un grand écran chez vous, vous allez regarder cette sélection de films.
Je dois dire que j'ai beaucoup aimé le cinéma, j'allais dire juste après-guerre, le cinéma d'Henri de Coin et tout ça. Je me suis arrêté aux années 90 à 2000, moi.
Ah
après, il
oui.
n'y a pas grand-chose que je vais voir.
Et vous êtes passé aux séries ?
Ah oui.
Voilà, il nous dit ça sur un ton.
Ah oui,
l'impression qu'il va y avoir un meurtre.
En ces périodes de confinement, que voulez-vous faire d'autre ?
Merci beaucoup, Mathieu Charrier. Hervé Villard, reste avec nous. On a encore plein de questions, plein de sons à vous passer. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie d'Hervé Villard, du Lierre dans les arbres, ça vient de sortir chez Fayard. Vous racontez des années de votre vie, deux ou trois décennies. Vous racontez comment vous êtes parti du Berry. Pour y retourner, vous avez acheté une maison là-bas. Finalement, vous en êtes séparés. Vous racontez comment Daniel Cordier, on le citait tout à l'heure, vous a mis les pieds dans le grand monde. Vous croisez des gens exceptionnels, grâce à lui ou pas. Le grand écrivain argentin Borges, André Malraux, Pierre Mendès-France ou Marguerite Duras. Mmh. La rencontre est assez dingue.
J'étais devenu le copain de Marguerite, pas l'ami, j'étais pas dans l'entourage de Marguerite. Mais de temps en temps, on se voyait. Je l'avais connue au Théâtre du Rond-Point, elle s'occupait de Madeleine Renaud, avec une pièce. Et là, bon, elle adorait cette chanson, Caprice est fini. Et donc je vais vous la faire très courte. Un jour, on se promenait sur la plage vers Trouville, là-bas.
Où elle habitait.
Elle était déjà un peu malade et tout ça. Elle s'est assise sur le sable, gentiment, comme ça. Et elle m'a dit, vous voulez pas me chanter Caprice est fini? Et là, c'est inoubliable. C'est des moments de ma vie, peut-être des privilèges. Et elle était en train de... Elle venait de déguster le succès de L'Amant. Voilà.
Prix Goncourt, qui est devenu un film avec Jean-Jacques Haneau. Vous avez rencontré le pape, je le savais, j'avais complètement oublié ça. Ouais. Il n'est pas en tenue de pape, il n'est pas dans sa belle soutane immaculée, il est en salopette, en jean, façon Coluche. Qu'est-ce qu'il faisait le pape et pourquoi il vous reçoit comme
ça ? Il taillait des roses dans un petit jardin derrière le Vatican, et voilà. L'après-midi, moi j'avais... Ce n'est pas une maison que j'ai achetée, c'est le presbytère. Ouais. Et dans ce presbytère, quand j'ai racheté le presbytère, j'ai trouvé des centaines de prêches de l'abbé en grand qui étaient écrit à l'encre de Chine. Je les ai lus et j'ai trouvé que c'était très très beau, donc j'ai voulu les faire livrer. Et donc je les ai livrés au Vatican par l'intermédiaire de Monseigneur Lustiger, et je suis allé donc naturellement à la messe voir Jean-Paul II, et il a salué toute l'assistance, comme ça, il est revenu vers moi, après avoir lu un prêche de l'abbé. Il m'a dit, est-ce que nous pouvons nous voir cet après-midi? Alors je lui ai dit naturellement. Il m'a dit, vous savez, ce Caprice est fini, c'était un chant de liberté quand j'étais à Cracovie. Donc tout ça, c'était... Mais ça... Donc là, vous vous dites quand même que vous êtes au-dessus du sol et que vous... Il y a des moments, des privilèges comme ça, des personnages que vous rencontrez magnifiques. Et il avait un sécateur à la main, il était en train de tailler des roses.
Tellement de personnages magnifiques au-dessus du sol dans ce livre, notamment grand attaché de presse de cinéma, attaché de presse des Valseuses, le film de Tavernier ou de Louis de Funès. Louis de Funès qui l'appelait tous les vendredis pour dégueuler ses tripes de comédien sur son souffre-douleur. Vous voyez que vous écrivez bien Hervé Villard. Ouais. Et ce grand attaché de presse, parce qu'on dit waouh, il est incroyable ce type, il s'est fait connaître 20 ans plus tard avec ceci.
Tu l'as connu?
Non, je ne l'ai pas connu. Et je vois le nom de Bézu, je me dis, mais il s'appelle pas Bézu comme Bézu de la queue leu-leu. Si, c'est si. Le même, c'est la même personne.
Il est devenu le grand attaché, il était le grand attaché de presse de tout Paris. Et ça prouve à quel point il était finalement dégoûté parce qu'il a été dénoncé au fisc. Ça prouve la cruauté parfois de ce métier que nous avons.
Il a été dénoncé au fisc sous quel prétexte?
J'en sais rien du tout, mais je peux dire, à la fin, il marchait sur ses smokings, il était noyé dans l'alcool, André était un esprit, un type formidable. Tout le cinéma français l'a connu.
Bézu, Duras, Jean-Paul II, Hervé Villard, quel quatuor, ils sont dans ce livre, s'appelle Du lierre dans les arbres, c'est chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous, Hervé Villard, en direct. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec la présidente des Miss France, Sylvie Tellier. Elle va venir nous parler des préparatifs de la prochaine cérémonie et elle va nous présenter son livre, Miss France 1920-2020, centenaire également, comme Pierre Cordier. Et puis l'un des meilleurs humoristes actuels,
Daniel Cordier, pardon, une découverte qui s'appelle Samuel Bambi. On va parler avec lui du gala du Jamel Comedy Club sur Canal. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien, c'est le nom de l'émission. Je vous dis à demain. Salut Hervé Villard.
Au revoir.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.